Ce balado parle du Québec, des régions et plus particulièrement de chez nous, la Côte-Nord. Ici, on interpelle ceux qui habitent et qui s'activent. On aborde ensemble enjeux, actions et pistes de solutions. Je suis partie à la rencontre de ces citoyens engagés dans leur entourage, pour leur communauté. Ces gens inspirants qui font de notre région ce qu'elle est aujourd'hui. À vous tous, merci. Je m'appelle Émilie, vous écoutez La Voix des Régions. Ici en région, quelle est la réalité des gens dans le besoin? Comment faire notre part pour cet enjeu social? Avec José, nous parlons dans cet épisode d'exclusion sociale, de vulnérabilité monétaire, mais aussi psychologique, et on parle aussi de pauvreté. Bien sûr, on discute de la place de la solidarité et de la concertation au cœur de cette lutte. Alors, bonjour José.
Bonjour Émilie.
Merci d'avoir accepté l'invitation pour le balado La Voix des Régions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je te dis La Voix des Régions, qu'est-ce que ça t'évoque?
Oh, ça évoque une belle population, une belle communauté, la Côte-Nord, des gens solidaires, des gens pour qui la valeur de l'entraide est super présente, des gens de cœur, c'est ça que ça me dit.
Des gens de cœur, tu parles d'entraide, je pense que ça va être pas mal un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais on va commencer par te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire? D'où est-ce que tu viens et c'est quoi ton chemin?
Moi, je suis native de cette île. Je suis une enfant unique. Petite fille gâtée d'un milieu très privilégié. Pas nécessairement financièrement, mais un milieu avec des parents aimants, présents. Donc, j'ai eu une super belle petite enfance, une belle enfance. Je vous dirais qu'il y a une partie de ma vie où là... J'ai vécu des problèmes d'intimidation là, pendant l'école primaire qui a laissé des blessures assez profondes là, que j'ai pu remarquer des années plus tard. Par ça, je pense que j'ai toujours été la petite fille qui attirait toujours la confidence. J'ai toujours attiré les gens dans le besoin. J'étais toujours celle qui allait aider le plus démuni, celui qui pleurait au bout de la rue, celui que les gens intimidaient à l'école. J'étais toujours cette personne-là qui était là, présente pour ces gens. Donc, j'ai continué mon chemin, fait les études, j'ai connu une adolescence un petit peu rebelle avec tout ce que j'avais pu vivre. Je crois que c'est ça qui a eu des répercussions là, sur mes comportements. Mais malgré cette petite rébellion délinquance-là, je suis revenue quand même. J'avais des belles valeurs. Là, mes parents m'avaient vraiment inculqué de belles valeurs, ce qui fait que je suis toujours revenue à la base. Et j'ai décidé de faire des études dans le domaine des sciences sociales. Ça allait de soi que je devais aider les gens, je devais en faire mon métier, ma profession. Donc, je me suis dirigée... d'abord, j'ai essayé de... J'avais beaucoup cet attrait pour la délinquance. Ma mère a travaillé en centre de détention quand j'étais petite et je l'accompagnais parfois faire du bénévolat avec elle les week-ends pour... aller accompagner ces hommes-là qui étaient en centre de détention. C'était un centre minimum à cette île, avec des petites sentences, et c'était pas des cas très dangereux. Donc, elle m'amenait là déjà quand j'étais jeune, et j'avais cet attrait-là d'aider ces hommes-là qui semblaient tellement en détresse, tellement isolés. Donc, mon premier choix de carrière, ça a été intervention en délinquance. Malheureusement, j'ai été refusée, mes notes n'étaient pas assez élevées. Fait que je me suis tournée vers l'éducation spécialisée ici à Bécomo. Et je suis arrivée ici dans les années, fin des années 90 pour venir faire début des années 90, faire mon DEC et j'ai connu le père de mes enfants et je suis restée là. Donc ça, c'est le parcours un petit peu scolaire et ensuite professionnellement, bien, j'ai toujours œuvré. J'ai été intervenante sociale, j'ai suivi des études universitaires par la suite en toxicomanie, en psychologie. Et je vous dirais, ma clientèle particulière préférée, c'était des hommes toxicomanes TDAH. Ça, c'était vraiment le portrait typique, c'était ces hommes-là que j'avais le goût d'aider le plus. Fait que je me suis retrouvée dans différents parcours professionnels. En centre de détention, j'ai travaillé en milieu carcéral plusieurs années, ici à Bécomo. Mais aussi en parallèle, là, j'ai œuvré, j'œuvrais aussi au primaire, à la commission scolaire, avec des jeunes en troubles de comportement aussi. Souvent le même schéma, troubles de comportement, TDAH, garçons. C'était vraiment la clientèle à laquelle j'étais très proche et que je voulais supporter. Donc, c'est ça. Et un jour, la vie m'a amenée à Centraide là, pour faire un bout de chemin de plus.
Centraide, ça fait combien de temps que tu travailles pour...
Je suis arrivée en 2017 chez Centraide à titre de directrice. Par contre, j'étais impliquée dans l'organisme comme bénévole auparavant sur le conseil d'administration, peut-être 2-3 ans, puis depuis une dizaine d'années auparavant comme bénévole.
T'es restée en région, t'es restée à Baie-Comeau. T'es jamais partie finalement parce que t'as créé une famille ici puis tu t'es impliquée ici?
Ben je suis partie, 6 mois. J'ai arrêté à un moment donné mes études. Dans encore une petite graine de délinquance que j'avais, là, je voulais aller voir ailleurs. Fait que je suis partie à Québec pendant 6 mois et j'ai détesté mon expérience. Je rêvais de revenir voir la mer, je rêvais de ma forêt, je rêvais de nos plages. Fait que c'est à grande course que je suis revenue et que je vous affirme hors de tout doute que je ne repartirai jamais de la Côte-Nord. Sauf pour aller dans le nord du Québec. C'est la seule place qui pourrait m'attirer, là, mais jamais ailleurs.
Qu'est-ce que la Côte-Nord a de plus?
Qu'est-ce qu'elle a de plus?
Oui. Comme région.
C'est la nature, hein, premièrement. On est proche, on vit, on est intégré dans cette nature-là. Je suis dans ma fenêtre, j'ai la forêt devant moi. Je fais 2 pas, j'arrive au lac Abert qui est là. 2 pas vers le sud et j'ai le fleuve qui m'attend. On est imprégné de la nature, elle est présente partout autour de nous. Fait que premièrement, c'est ça. Et il y a toute cette chaleur humaine-là. On est une communauté... c'est tissé serré, là, tu sais, j'ai pu faire la différence avec les grands centres, puis ce qui se passe ici, puis les gens s'entraident, les gens sont présents, là, ils ont à cœur leur prochain, c'est ça, c'est pour ces raisons-là.
Donc, tu travailles pour Centraide. Centraide, c'est quoi? À part aider, Centraide aide, à part, c'est quoi Centraide?
Mais Centraide, à la base, la mission originelle de Centraide, c'est vraiment de recueillir des fonds dans la communauté pour assurer la distribution aux personnes vulnérables. Ceci étant dit, Centraide, depuis quelques années, évolue également dans le développement social. Donc oui, on recueille des sous pour les distribuer, mais on va aussi s'assurer que cette distribution-là se fasse de la façon la plus optimale possible. Donc on va vraiment être sur le terrain pour évaluer les besoins de la communauté. J'ai le privilège de siéger sur plusieurs tables de concertation, tant au Côte-Nord que dans la Manicouagan, pour vraiment aller saisir c'est quoi les besoins de la communauté. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, ça ressemble à quoi? Qui sont les personnes qui demandent l'aide? Est-ce qu'il y en a tant que ça? Si oui, quelle communauté est la plus touchée? Au niveau de toutes les problématiques, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les femmes, les besoins des femmes, on est dans un ère où la violence est très présente, malheureusement. Donc, c'est quoi les besoins ici dans notre région? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que oui, on peut donner de l'argent à tout le monde, mais comment cibler quels sont les besoins à prioriser? Tu sais, on a notamment au niveau de la protection de la jeunesse, notre bilan n'est pas très reluisant sur la Côte-Nord. Malheureusement, on a beaucoup d'enfants victimes de négligence. Victimes de parents qui ont beaucoup de problématiques de dépendance. C'est vraiment ciblé ici chez nous. Donc, comment on peut faire financièrement, oui, pour supporter des initiatives qui vont avoir un impact durable? On veut que les projets qu'on fait donnent des impacts positifs à long terme. Là. C'est vraiment notre souhait. Donc, c'est pas donner de l'argent pour donner de l'argent. Là, on veut vraiment répondre à des besoins concrets puis que ça dure dans le temps. Tu sais, qu'on arrive à résoudre. Mon grand rêve, moi, c'est que Centraide arrête d'exister, qu'on n'ait plus besoin de Centraide, parce que, un, les gouvernements auront assuré des services essentiels à toute la communauté. Actuellement, ce sont nos organismes communautaires qui se doivent de rendre ces services-là. Mais donc, je rêve à ce jour-là où ils auront tous les moyens nécessaires pour rendre les services qui se doivent d'être rendus et que la population qu'elle aille mieux, tu sais, je souhaite le bonheur de la communauté, le bonheur des gens, donc c'est mon souhait le plus grand, fait que c'est ça. J'espère que Centraide n'aura plus besoin d'exister un jour.
Vous êtes basée finalement sur toute la Côte-Nord?
Il y a 2 Centraides.
OK.
Ici, moi, le Centraide que j'occupe, c'est Haute-Côte-Nord et Manicouagan, et il y a un Centraide du Plessis qui fait l'est de la Côte-Nord.
OK, super. Donc toi, au niveau de ton secteur, donc Haute-Côte-Nord, Manicouagan, c'est quoi les enjeux principaux sur lesquels vous essayez d'agir? Qu'est-ce qui se démarque?
Bien, en Haute-Côte-Nord, les travaux sont avancés. Ça fait que c'est une communauté qui se prend qui est très responsabilisé puis qui se prend en main. Là, depuis quelques années, eux ont déjà amorcé là, un virage du développement social. Et ce qui a été priorisé, c'est vraiment la sécurité alimentaire. On le sait, pratiquement toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord ont un indice de défavorisation assez grand. Ce qui fait que il y a une pauvreté financière, il y a une vulnérabilité accrue de cette population-là. Donc, on se doit de nourrir les gens d'abord et avant tout. On sait que c'est le besoin de base. Là. Assurer l'essentiel chez Centraide, c'est notre priorité et c'est un besoin qui est ressorti prioritaire aussi en Haute-Côte-Nord. Donc, on travaille là-dessus. Puis, je peux vous donner des exemples. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle « Nourris ton cerveau ». Qui est l'idée par le Centre d'action bénévole de Forestville, qui consiste à donner des collations à tous les enfants des écoles primaires. Parce qu'on le sait, là, il n'y a plus de collations. Il n'y a plus les petits berlingots de lait comme dans mon temps qui étaient offerts aux enfants. Donc maintenant, beaucoup d'enfants arrivent le ventre vide à l'école, mais on ne peut pas faire des enfants qui vont étudier puis qui vont... On les met tout de suite à risque de décrochage dès la petite enfance. Fait que ce programme-là bien, qu'on subventionne vise à ce que chaque enfant puisse recevoir une collation santé à tous les jours de la semaine pour au moins partir du bon pied puis avoir le cerveau prêt là, pour être en mode apprentissage. Donc ça, c'est en Haute-Côte-Nord, sécurité, puis inclusion sociale aussi qui est présente parce qu'il y a beaucoup, le taux de chômage est quand même très élevé de l'autre côté. On parle de beaucoup d'emplois saisonniers, des emplois précaires souvent. Fait qu'il y a aussi tout cet aspect-là de création d'emplois. Ils sont en train là, de faire des beaux trucs, notamment en agriculture, puis avec des serres et pour se nourrir, mais tout en créant des emplois. Fait que c'est un modèle là, vraiment idéal, ce qui se passe actuellement en Côte-Nord. Ici, dans la Manicouagan, on est en train d'analyser. Je vous dirais, là, depuis... oui, c'est parlant, là, depuis les 4 années que je suis là, on a réussi à ressortir différents enjeux, le décrochage scolaire, la sécurité alimentaire aussi qui est présente ici. On a, nous aussi, des municipalités super défavorisées, là, tu sais, qu'on parle de Franklin, Trinité, Godbout, et Chouteau-Soutard, de Ragnaud, c'est vraiment des milieux où c'est plus difficile, fait que... Là encore, la sécurité alimentaire, c'est vraiment notre enjeu prioritaire. Le souhait, là, c'est que chaque personne de notre territoire puisse avoir au moins accès à un repas à chaque jour. Un repas sain, équilibré, accessible sur sa terre. Fait que ça, c'est ce qu'on aimerait. Est-ce qu'on l'a atteint? Pas certaine encore qu'on l'ait atteint, mais on est en train là, de faire vraiment l'exercice là, pour avoir le portrait le plus fidèle possible pour voir comment on va subvenir, comment on va pouvoir supporter des initiatives qui vont nous permettre au moins d'atteindre cet objectif-là.
Est-ce que tu as un peu des chiffres pour nous projeter un peu?
Bien, pour vous donner une idée, là, le dernier chiffre que j'ai eu pour Bécomo, on sait que dans les derniers mois, le comptoir alimentaire de l'Escale a donné de la nourriture à plus de 400 enfants. Donc, il y a 400 enfants d'ici qui ont dû avoir recours à ça via leur famille ou via l'école pour se nourrir. Donc, ça, c'est un chiffre qui nous parle en sécurité alimentaire. Sinon, on est en train de recenser, là, mais il y a des hausses. Là, en temps de COVID aussi, là, il y a eu des hausses importantes là, de demandes d'aide. Puis ça, tant au niveau des dépannages alimentaires, mais tant aussi au niveau de nos aînés avec les papas roulantes, qu'on supporte aussi. Fait que ça aussi, nos aînés ont perdu, je cherche le terme que je ne me souviens plus, mais nos aînés, en s'isolant avec la COVID, se sont mis à moins bouger, veut pas, puis ont eu des pertes cognitives associées. Donc, leur état de santé global de nos aînés, ça ne va pas super bien non plus. Fait qu'il y a recrudescence aussi au niveau des popotes roulantes pour eux, s'assurer qu'ils puissent avoir accès à de la nourriture également. Au moins ça, à défaut de pouvoir avoir de la visite pour l'instant, mais c'est ça. Fait que...
Tu m'avais dit que Centraide permet d'aider un tiers des citoyens finalement. Donc, encore une fois, Haute-Côte-Nord et Manicouagan.
Oui, c'est une personne sur trois. En Haute-Côte-Nord, on tire plus vers le 1 sur 2. Et dans la Manicouagan, on tirait plus vers le 1 sur 4. Okay. Donc, on est à une moyenne de 1 sur 3 pour l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Centraide, oui, on est beaucoup dans la pauvreté financière, Mais on est aussi dans l'exclusion sociale. Donc, on a des gens très bien nantis qu'on aide. C'est pour ça, des fois, les gens disent « Ah, il n'y a pas une personne sur trois qui est pauvre. » Non, il n'y a pas. C'est pas le cas. On parle d'à peu près 8 % de la population qui est vraiment dans une situation de pauvreté, là, vraiment très précaire. Mais il y a des gens, c'est un parent qui a un enfant autiste va avoir besoin des services de centraide. Un aîné qui peut être super bien aisé financièrement va avoir besoin des services de centraide pour accéder à un centre de jour. Donc, c'est ça, on n'est pas juste dans la pauvreté financière dans le portefeuille, on est vraiment dans tout ce qui est exclusion sociale également.
Est-ce qu'on peut dire que la pauvreté du portefeuille, la pauvreté financière, va avoir vraiment un impact concernant la sécurité alimentaire, mais dans un sens, vous avez aussi toute une autre classe de citoyens qui vont, eux, avoir besoin de soutien peut-être plus au niveau de la santé mentale, psychologique, etc. Est-ce que c'est pour ça que, dans un sens, vous n'aidez pas, par exemple, juste le compteur alimentaire? Parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal un gros réseau d'organismes communautaires. On s'y perdrait à vouloir tous les connaître.
Ben oui, tout à fait. Tu sais, bon an, mal an, c'est autour de 40 organismes qu'on cible. Puis je vais énumérer très brièvement, là, mais il faut savoir qu'on est là dès la petite enfance avec des ressources comme la Maison des familles ou Grain de soleil. Après ça, toutes les maisons des jeunes du territoire sont supportées par Centraide aussi. Donc, on est là en intervention psychosociale auprès de ces jeunes-là, mais aussi dans la sécurité alimentaire parce qu'on leur donne des collations. On passe par les organismes femmes, hommes, aînés. Problématiques de santé mentale, toxicomanie, fait qu'on englobe vraiment toutes les problématiques de la société, déficience physique, déficience intellectuelle, autisme, TDAH, fait que nommer une problématique, puis en principe, on devrait s'entraider là pour aider ce type de ressources-là en principe.
Qui existe déjà, donc en fait, vous travaillez conjointement avec eux en allant lever des fonds pour pouvoir les soutenir. Mais ce que j'aime aussi de ça, parce que Centraide, finalement, moi j'en entends beaucoup parler pour les campagnes de financement, mais tout le volet, on dirait, tu sais, d'études du territoire, des gens qui sont là, des enjeux liés aux êtres humains, j'ai l'impression qu'on entend un peu moins parler, et finalement, Centraide, bah, peut-être qu'il y a peu de gens qui savent vraiment mais tous les volets que vous êtes capable d'assurer.
Ah, soyez assurés, on fait des rencontres en milieu de travail, puis c'est toujours la première question. Que croyez-vous que fait Centraide? Puis Centraide aide, oui, mais encore! Donc, on amène les gens à aller plus loin, vous avez raison, on a beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire pour que les gens connaissent mieux ce qu'on fait, mais en même temps, comme je vous disais, le développement social, c'est quand même nouveau chez les Centraides du Québec. Ça fait environ 3-4 ans là, que c'est vraiment en place, mais oui, c'est on a tout à gagner d'expliquer ça à la population.
Les Centraides du Québec, donc c'est ça, il n'y a pas juste un Centraide ici, il n'y a pas juste deux Centraides sur la Côte-Nord, c'est réparti à l'échelle du Québec.
Centraide World, il y a un Centraide World, donc on en voit partout autour du globe. Nous, on fait partie aussi de la grande chaîne de Centraide Canada et Centraide Québec également, donc il y en a vraiment partout.
Et par curiosité, c'est quoi le statut de Centraide?
On est un organisme sans but lucratif,
okay.
Un organisme nommé philanthropique. Donc, on est vraiment là, selon la charte, on est là pour recueillir des dons et c'est pourquoi les gens nous connaissent habituellement. Il faut savoir que notre but dans la vie, là, pourquoi qu'on se charge de recueillir des dons, souvent les gens nous disent ça, « Ah, ben là, je vais donner directement à tel ou tel organisme. » Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler à leur place pour qu'eux puissent réaliser leur mission première qui est d'aider les gens. Parce que sinon, les organismes sont obligés de mettre du temps et de l'énergie en faisant des activités de financement, ce qui n'est pas leur mission de base. Donc, on souhaiterait qu'ils aient pu à faire ça, puis que nous, on s'occupe uniquement de tout ce volet-là. C'est notre spécialité.
Vous êtes combien pour réaliser toutes ces tâches-là?
On est 1 3/4. On est moi et j'ai une personne, une agente au développement philanthropique qui travaille avec moi 9 mois par année.
Wow, et sur l'autre Centraide qui est plus Duplessis?
Duplessis sont 3.
Ok.
Ouais.
Parce qu'ils ont plus de charges de travail?
Non, pas nécessairement. Je pense que c'est une question de... C'est un choix de notre conseil d'administration qui ont préféré me former pour être plus polyvalente, je dirais, pour que le plus de sommes possibles soient réinvesties dans la communauté. On s'est toujours fait... Puis on, là, je m'exclus, là, mais je parle du conseil d'administration de Centraide depuis X années. Ils se sont toujours fait un devoir de réinvestir au moins 80-85 % des dons dans la communauté. C'est un taux excellent là, à travers le Canada. Habituellement, ça, c'est autour de 65-70% de redistribution. Mais nous, on se tient à 85, puis je vous dirais même 87, puis cette année, on va être à 90% à peu près de redistribution. Donc, c'est sûr que ça veut dire moins de salaire, ça veut dire moins de tout flafla. Fait que je suis extrêmement exigeante sur toutes les dépenses de l'organisation. Je fais attention à chaque feuille qu'on prend. Fait que ça prend un œil vigilant pour s'assurer qu'on puisse redistribuer le plus possible.
Petite question avant la prochaine partie. Tu vis comment travailler pour Centraide? Parce que tu dois voir pas mal de choses à travers ton travail, même si je ne sais pas à quel point tu es au contact finalement des gens dans le besoin. Mais comment tu le vis? Parce que pour travailler dans un domaine comme ça, avoir choisi le domaine social, ça se voit, tout le monde le sait, je pense que tu as un cœur énorme. Est-ce que tu es capable de travailler pour Centraide, puis à côté de ça, de continuer à vivre ta vie normalement finalement?
Oui, puis ça, je suis triste un peu de ça, je vais t'avouer. Quand j'ai commencé ma carrière là, dans la jeune vingtaine, où j'ai travaillé dans la commission scolaire, j'ai vu des jeunes enfants que j'aurais amenés chez nous là, chaque soir parce qu'ils arrivaient pas de bas dans les pieds en plein hiver, qu'ils arrivaient le ventre vide, qu'ils arrivaient... Fait que j'ai vécu... Tout intervenant social va te répondre la même chose. Les premières années sont extrêmement difficiles parce qu'on a côtoyé la misère humaine, mais vraiment là, de face. Puis malheureusement, on se fait une carapace. Malheureusement, heureusement, ça nous permet de continuer puis de faire notre travail adéquatement. Mais malheureusement, on se fait un peu une carapace. On devient pas, je dirais pas, c'est de l'insensibilité. Je sais pas comment nommer ça. Ce qui fait en sorte que je suis capable aujourd'hui, encore aujourd'hui, avant d'en venir avec toi, j'ai vécu une situation, j'ai une personne suicidaire là, que j'ai eu à gérer parce que toutes les autres ressources étaient prises. Donc, les policiers me l'ont envoyé à moi pour dire « Peux-tu nous aider avec cette personne-là? » Fait que ça fait partie de mon quotidien. Puis Dieu merci, c'est ce que j'aime chez Centraide. Oui, je suis dans la gestion de l'administration, mais je suis encore sur le terrain. Je vois encore la misère humaine. Non pas que j'aime, que j'apprécie la côtoyer, mais j'aime pouvoir me rendre utile concrètement pour ces gens-là dans le besoin. Mais c'est ça, j'ai cette espèce de muraille-là maintenant qui fait en sorte que je puisse faire mon travail sans trop m'investir émotivement. Oui, ça me fait de la peine, puis oui, j'ai le cœur brisé de voir certaines situations familiales, mais je vais être capable de vivre ma vie normalement quand même.
Et finalement, mais je pense que c'est comme ça, que ce soit pour cet enjeu-là ou n'importe quel enjeu, quand on s'engage avec le cœur, ça prend un certain recul pour être finalement le plus efficace possible. Parce que si t'étais pas capable de supporter cette pression-là, finalement tu deviendrais une victime comme les personnes que t'aides.
Mais, tout à fait.
Ce que je vais te proposer, c'est une petite mise en situation. Alors, si je te dis de fermer les yeux, et ensemble, on va faire un saut dans le temps pour se réveiller en 2030, dans 10 ans. Tu sors de chez toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu entends de ta région?
Écoute, je vois ma région, elle n'a pas changé tant que ça. Elle n'a pas changé tant que ça. Elle est toujours engagée, elle est toujours présente les uns pour les autres. Par contre, je souhaiterais qu'il y ait moins d'exclusion sociale. Je souhaiterais que la pauvreté ne soit plus là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon grand rêve, c'est que Centraide arrête d'exister. Parce qu'il y aura des services pour chaque individu et que chaque individu aura le loisir de croître, de cheminer avec toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Fait que c'est ce que je vois, mais je vois une communauté aussi engagée, aussi...
Le chemin, donc là on est en 2030, vous avez continué dans vos actions, mais il y a encore pas mal de choses à faire.
Mais oui, tout à fait, on le sait. Là, moi, je vis dans un pays de licorne, tout le monde rit de moi parce que je rêve toujours les yeux ouverts. Mais je suis consciente là, que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vivront le cycle de la pauvreté, de père en fils, générationnel. Même si on met des efforts et on met des trucs en place, ça sera toujours présent, j'en suis consciente. Mais je crois qu'on peut faire une différence. Je crois qu'on peut améliorer le sort de beaucoup de personnes encore dans notre communauté. Je crois qu'il reste beaucoup à faire, qu'il y a beaucoup de projets, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mailler. On est dans une ère actuellement avec Centraide où on prône beaucoup la concertation entre les organismes. C'était quelque chose que je vivais lorsque j'étais intervenante sociale, à quel point tout le monde travaillait en silo. Mais pour aider les individus, on se doit de travailler solidairement en communauté. Donc ça, c'est vraiment un effort, un gros travail que je fais de ces temps-ci pour s'assurer qu'on travaille collectivement pour gérer des problématiques X pour arriver à des résultats durables.
Et en 2030, est-ce qu'actuellement, on fait plus de concertation?
Oh oui, ça c'est sûr, tout à fait.
Ça fait 10 ans que tu travailles pour ça, alors aujourd'hui, on a amélioré ça.
Les gens se parlent, il y a toujours dans notre domaine le souci de la confidentialité. Fait en sorte que chacun n'ose pas dévoiler trop de trucs sur certains individus. Fait qu'on en dit, mais pas trop, ce qui fait en sorte que les autres intervenants autour ne peuvent pas aider à la hauteur de ce qu'il faudrait. Moi, je suis tout à fait pour la confidentialité, mais je crois qu'il faut savoir la briser dans les bons moments pour justement qu'on mette toute la main à la pâte puis qu'on bâtisse un filet social autour des individus qui en ont besoin.
Oui, tu me parlais tout à l'heure que tu étais quelqu'un de très transparent. Est-ce que ça pourrait être ça ou peut-être aussi une des voies, c'est que oui, la confidentialité, c'est important, mais il faut des fois comprendre les choses. Il faut voir les choses pour les comprendre vraiment. Pour faire plus de concertation, Centraide travaille fort, c'est dans vos actions quotidiennes. Vous cherchez souvent des bénévoles. Comment vous avez sollicité, il y a 10 ans, les citoyens pour qu'ils vous aident à ce qu'on en soit aujourd'hui, à ce qu'on en est?
Bien, écoute, par l'engagement social d'abord et avant tout, pour que chaque citoyen, déjà il y a une belle sensibilisation de la communauté, mais chaque citoyen doit se sentir responsable du sort de son voisin. Sa famille, de son collègue de travail, je pense qu'on a une responsabilité citoyenne. On décide de vivre en communauté, ben on doit faire un geste pour ça. Donc, pour en arriver à ça, je pense que chacun doit poser d'abord un geste, faire un pas en avant, de s'engager socialement dans sa communauté. Puis à différents niveaux, oui, Centraide, souvent on est vu comme la personne qui requiert des sous, là, on recueille des dons financiers, mais on est là aussi pour prôner l'engagement social, prôner le bénévolat. Tu as du temps, tu as des compétences et tu souhaites les partager, bien bingo, viens nous voir, puis nous, on va t'aider à trouver à quel endroit tu peux faire ça. Et déjà, ça a commencé parce qu'on a justement des gens qui sont venus à nous pour nous dire « ben moi, je souhaite m'engager ». Puis on a pu mettre en place avec ces gens-là justement un espèce de circuit d'entraide qui est de la concertation en quelque sorte parce que ces personnes-là se sont retrouvées à œuvrer dans différents organismes qui ont fait en sorte que ces organismes-là ont dû se parler pour se concilier sur différents enjeux. Donc, je pense que ça part à partir du citoyen, que le citoyen s'engage socialement, que les organismes continuent à avoir une ouverture à aller les uns vers les autres, puis qu'on ait toujours l'objectif ultime commun d'aider son prochain, qu'on ait toujours cette pensée-là, qu'on a cette responsabilité-là envers chaque membre de notre communauté. Fait qu'en ayant ça en tête, je pense que le reste fait son chemin.
Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour justement peut-être commencer, pour ceux pour qui ce n'est pas encore le cas, à faire sa part pour cet enjeu, qu'est-ce que ça serait?
Bien, qu'ils me lâchent un petit coup de fil, tout simplement. qui appellent nous chez Centraide, qui appellent au Centre d'action bénévole, qu'on explore avec vous c'est quoi vos intérêts. Jamais on va aller à l'encontre des intérêts de ce que les gens souhaitent. On va toujours prendre à cœur leurs besoins, leur expertise, leurs compétences pour essayer de trouver la bonne chose qui va leur faire plaisir. Parce qu'on s'entend, s'engager dans la société, c'est correct, mais il faut que ça soit plaisant aussi. Il faut qu'on en retire un bénéfice. Puis le bénéfice, c'est de donner. Quand on sait que quelqu'un reçoit, mais c'est encore plus gratifiant quand tu as donné puis que tu es fier de ce que tu as donné parce que tu es en pleine connaissance de ce que tu fais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter?
Bien, je veux dire merci, Billy. Ce que je veux ajouter, c'est que c'est grâce à des personnes comme toi qui s'impliquent. Tu es une jeune femme, nouvelle arrivante dans notre communauté, qui déjà a mis la main à la pâte. Je pense que tu es un modèle pour toute la population. J'invite les gens à s'inspirer de toi. C'est ce que je souhaite ajouter, Émilie, vraiment. Si chaque personne faisait le quart de ce que tu fais, comme implication, comme engagement, comme motivation à vouloir faire une différence dans sa communauté, je pense que, mon Dieu, on sera au paradis.
Merci. Merci, José. Est-ce que, avant de terminer l'interview, est-ce que tu aurais une référence à nous partager?
Ben, en fait, je vais vous parler d'un homme ici à Bécomo qui travaille depuis longtemps, qui est supposé être retraité, mais qui est toujours en action au Centre de prévention suicide de la Côte-Nord, et c'est M. Jean-Pierre Dupont. Moi, comme jeune intervenante, début vingtaine, c'est un homme qui m'a grandement inspirée. C'est un homme qui travaille maintenant de façon retraitée chez Homme Aide Manicouagan. Donc, la cause des hommes a toujours été très importante pour lui, puis il m'a beaucoup inspirée comme femme à être à l'écoute des besoins de ces hommes-là. C'est ça, Jean-Pierre m'a permis de comprendre que les hommes, malheureusement, de plus en plus, heureusement, ils ont des beaux services qui sont en place, mais souvent, ça a été la grosse clientèle oubliée qui a dû se débattre, qu'on a dû apprendre à apprivoiser, parce que des hommes qui ont besoin d'aide, quand l'homme appelle à l'aide, c'est qu'il est rendu au bout du rouleau. Donc, on doit lui donner l'aide maintenant et non pas le mettre sur une liste d'attente qui finit plus. Fait que ça, j'ai appris ça grâce à Jean-Pierre, puis vraiment, je pense que c'est un homme très inspirant, puis c'est lui qui a fait en sorte que j'ai eu une pratique très intéressante pour les années à venir.
Incroyable. Ahmed Manicouagan, je le mettrai aussi dans le lien. Centraide, on fait comment pour vous rejoindre? On te donne un coup de téléphone, est-ce que tu nous le donnes là? Ou alors, où est-ce qu'on vous rejoint?
Avec plaisir. Numéro très facile à rejoindre, 589-5567. Ou 445-5567, donc c'est le téléphone au bureau et le cellulaire. Sinon, sur notre site internet, vous tapez Centraide, on a une page Facebook, on est actif aussi sur notre site internet. Vous venez cogner sur la rue de Puyjalon en tout temps. On est en haut du dépannage de Lens au bureau 301, donc ça va toujours nous faire plaisir de vous recueillir. Puis de vous accueillir plutôt. Puis je tiens à dire aussi, si vous entendez cette émission ce soir-là et que vous connaissez des gens qui ont des besoins dans votre communauté et qui n'osent pas demander de l'aide, vous pouvez demander de l'aide pour eux. N'hésitez pas. On a beaucoup, beaucoup de demandes dans ce sens-là. Des gens qui appellent en me disant « je ne sais pas quoi faire, mais mon ami vit telle situation, peux-tu m'aider? » Ben oui, on est là pour ça aussi, pour orienter les gens vers le bon endroit.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
Bien, je veux dire merci à toute la population d'être présente derrière Centraide. Année après année, on fait des campagnes extraordinaires. Les gens vivent eux-mêmes des situations difficiles là, dans la dernière année, puis on a eu des résultats de campagne incroyables. Au Québec, on est les deuxièmes derrière Centraide Montréal à recueillir le don par capita. Donc, les gens sont très, très, très généreux. On parle d'à peu près 17 $ par personne. Qui remet à Centraide. Donc, je ne peux que les remercier. Merci d'être là. Merci et continuez de l'être. On a besoin de vous et pas juste financièrement, mais dans votre engagement social également.
Merci beaucoup, José.
Merci, Mélie.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vos proches et amis. Merci à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. À très bientôt.